L'année prochaine, nous prévoyons un taux de croissance de 5,5% pour l'Afrique subsaharienne.
Le modèle que nous avons développé au Maroc, que nous souhaitons dupliquer en Afrique subsaharienne, c'est de s'ouvrir sur les classes moyennes, les fonctionnaires et les salariés, et les très petites entreprises et les PME-PMI.
On ne gagne pas. Tout le problème, c'est le non-paiement des salaires. C'est ça qui me fait mal. Si tu travailles, on doit te payer. Nous réclamons que ça. Nos droits.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, deuxième partie. Nous continuons notre quête de la classe moyenne africaine avec deux invités, Aboubacar Mbengue et Julien Damon. Dans la première partie de cette émission, nous avons entrevu la classe moyenne et ses disparités, mais il y a des endroits où elles se rassemblent. Écoutez le reportage de Sarah Sako, la correspondante de RFI à Kampala, la capitale ougandaise.
Cinéma 3D, restaurants et boutiques branchées, Acacia Mall est le dernier né des centres commerciaux dans la grouillante capitale ougandaise. Niché au cœur des quartiers chics, le lieu accueille un public d'expatriés, mais également un bon nombre d'Ougandais. Robert a une petite trentaine, pantalon de ville et chemise claire, il déguste un cornet de glace, une gourmandise qui se chiffre à plus de 4 euros au glacier du centre. Un luxe qu'aime s'offrir de temps à autre cet informaticien.
Oui, c'est parfois cher, mais on ne vient pas tous les jours. Il y a des restaurants modernes qui nous attirent dans les centres commerciaux, comme KFC par exemple. C'est nouveau ici, ça vient des pays développés, ça nous permet de nous sentir aussi internationaux.
À côté de cette clientèle occasionnelle, le centre commercial a aussi ses aficionados. Fiona, coquette étudiante de 23 ans.
Je viens me balader avec mon petit ami. On a déjeuné, on va aller voir un film après. Passer du temps ensemble, c'est notre jour. Après, on va faire quelques courses. Je vais acheter mon spray pour les cheveux, quelques bijoux. Et puis c'est tout, rien d'extravagant.
Rien d'extravagant peut-être, mais loin d'être à la portée de tous, ce que reconnaît aisément Fiona.
En tout, j'ai dépensé entre 75 et 80 000 shillings, environ 23 euros. Oui, c'est ce qu'une famille de la classe populaire dépense en une semaine pour les repas du midi et du soir à la fois. Ils ne pourraient jamais dépenser cela pour quelques heures de pause. Moi, je dirais que je suis de la classe moyenne. Ma mère est infirmière en chef à l'hôpital et mon père est ingénieur civil.
Cette classe moyenne alimente les chaînes de restauration rapide et les cinémas, mais certaines boutiques restent en revanche vides. C'est le cas de cette enseigne spécialisée dans les produits informatiques de la célèbre marque à la pomme. Aïda, désœuvrée derrière son comptoir chromé.
Ils n'achètent pas. Ils viennent, regardent nos produits et s'en vont. Très peu reviennent. Ils disent que nos produits sont chers. Et quand nous mentionnons la marque Apple, ils disent « Oh mon Dieu, les produits Apple sont chers. Ils ne sont pas à notre portée, pas de notre classe. » Les gens d'un certain âge, ce sont eux qui achètent généralement. Ils arrivent et ils disent « Je dois voyager demain. Est-ce que vous avez tel produit ? J'en ai vraiment besoin. Vous l'avez ? Ok, alors donnez-le-moi. »
La classe moyenne ougandaise compterait 150 000 foyers, des ménages capables de dépenser un minimum de 17 euros par jour. Sarah Sako, Kampala, RFI.
Julien Damon, les centres commerciaux, c'est le symbole de l'apparition de la classe moyenne ?
Eh bien, je crois que c'est en effet un des symboles parfaitement caractéristiques des classes moyennes. Tout d'abord, dans les pays occidentaux, riches, qui connaissent un relatif ou profond crépuscule des classes moyennes aux États-Unis, vous voyez des centres commerciaux qui deviennent des friches urbaines.
Aux États-Unis,
ce pays qui a incarné les classes moyennes, où vous avez une baisse du revenu médian, du revenu moyen depuis une dizaine d'années, vous aviez ce mode de vie autour du grand mall, c'est le terme qui est employé aussi pour des centres commerciaux partout ailleurs dans le monde, vous aviez la classe moyenne qui arrivait avec sa voiture, ses deux voitures, puisque le couple avait deux véhicules, et qui passaient là une partie de la journée à manger des glaces ou aller au cinéma. Mais ils n'ont plus de sous pour ça, ils ont des problèmes de sécurité, ils achètent sur Internet, ça s'est transformé. Et l'étiolement des classes moyennes dans les pays riches se caractérise par les difficultés qu'ont les centres commerciaux. Symétriquement, et c'est notre propos, la multiplication des centres commerciaux partout en Afrique, alors, du Maroc en Afrique du Sud, en passant par le Ghana ou ici l'Ouganda, caractérise à mon sens cette affirmation des classes moyennes. Mais si on entend ce que sont les revenus qui sont pris en considération, ces centres commerciaux sont loin d'être pour tout le monde et demeurent pour une minorité, en réalité, d'une classe moyenne qui est très privilégiée.
Privilégiée, Aboubacar Mbengue, cette classe moyenne ?
Privilégiée, probablement. C'est une affaire d'arbitrage fait par les uns ou par les autres. C'est-à-dire que c'est difficile a priori de savoir qui va venir et qui ne va pas venir dans un centre commercial, puisque les gens peuvent renoncer à telle ou telle autre chose, tel ou tel autre poste de dépense prioritaire et vouloir, justement, par ce sentiment d'appartenance, appartenir. Dans le reportage, on entendait l'un dire « on veut être internationaux ». Donc cette volonté de faire partie finalement d'une catégorie des classes moyennes ou d'une catégorie internationale va pousser un certain nombre de gens éventuellement à sacrifier d'autres postes de dépenses pour venir dans un centre commercial. Donc si on regarde du point de vue des consommateurs, une entreprise qui voudrait investir et se dire est-ce que je vais à Kampala ouvrir un centre commercial, peu lui importe à la limite de savoir combien gagne, quel est le revenu d'une personne ou d'une autre personne, il s'agit de regarder de manière plus fine quels sont les comportements, quelles sont les attentes, les motivations, les besoins, les comportements des uns et des autres pour y aller. Donc ça veut dire que cette question de classe moyenne n'est pas seulement une affaire de revenus, c'est aussi une affaire de comportement dans lesquels les gens vont se forcer. Et de ce point de vue, il faut vraiment être au plus près des réalités. Dépasser les chiffres qui sont donnés brutaux, etc. Et regarder la psychologie, les comportements et de ces acteurs africains-là, si on regarde le volet consommateur.
Julien Damon ?
Je confirme totalement ça par une formule que j'ai lue en l'espèce pour la classe moyenne africaine. Entrer dans la classe moyenne africaine, c'est se permettre d'entrer dans un centre commercial. Ça ne veut pas dire forcément avoir les moyens de payer ce qui est dans le centre commercial.
Alors, dans le reportage de Sarah Sacco, il y a une marque qui est nommée la marque à la pomme, Apple. Est-ce que cette classe moyenne africaine, elle finance, elle contribue à l'enrichissement de ces grandes marques étrangères, américaines, européennes, japonaises ou même chinoises, à Babacar Mbenge ?
Eh bien, là, vous me donnez l'occasion de... Oui, la réponse rapide, c'est oui. Elle finance ces entreprises et les autres. Et j'allais dire, d'un certain point de vue, quand les gouvernements font finalement de la promotion quand les Africains eux-mêmes, les institutions africaines montrent qu'il y a une classe moyenne en exagérant éventuellement, en disant venez, font de la promotion pour attirer des investisseurs. Donc ceci est très bien. Mais pour compléter cette affaire-là, je dirais qu'il faut que les Africains eux-mêmes, les gouvernants, les investisseurs africains se disent il y a un marché qui est ouvert. Et dans ce marché-là, il faut prendre sa place. Donc que la marque à la pomme soit finalement tire profit de certain nombre de comportements en Afrique, je n'y vois aucun mal. Là où il faut équilibrer les choses, c'est que c'est un jeu qui est ouvert et il faut que les acteurs africains, les entreprises africaines entrent dans le jeu et proposent des offres éventuellement plus intéressantes et non seulement qu'ils restent en Afrique, mais qu'ils aillent dans le reste du monde également.
Mais ce qu'on se dit, c'est que cet argent sort d'Afrique.
Il y a une expression africaine-américaine très forte qui est de dire combien de temps le dollar reste dans la communauté. Donc ce que vous dites là, c'est les maigres dollars, les maigres revenus dont on parlait ici, combien de temps est-ce qu'ils restent en Afrique, tournent en Afrique pour permettre le développement. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement choquant, j'allais dire. Mais dans une économie ouverte, je ne me choque pas de cette situation. Je préfère les avantages d'une économie ouverte à l'intérieur de laquelle, effectivement, il faut prendre des actions qui soient des actions qui corrigent au sens de... Il faut avoir des contre-offres qui soient des contre-offres intelligentes. Il faut montrer en quoi, éventuellement, ce comportement ou cette situation est dommageable et proposer des offres en faisant... On parle beaucoup de responsabilité sociétale, on parle de développement durable. Il y a des possibilités d'avoir une offre qui montre quels sont les dégâts éventuellement représenté par cette situation, sans agresser personne, et puis après, le consommateur ou les acteurs vont juger.
Mais est-ce qu'on assiste à l'émergence de grandes marques de produits de consommation made in Africa, africaines ?
C'est inéluctable. C'est inéluctable. On a quelques exemples, mais ça va aller.
Lesquels ?
On va crescendo. Je regarde sur la téléphonie, par exemple. On voit sur la téléphonie, on a des groupes de téléphonie en Afrique du Sud qui partent du Soudan et autres ça, qui sont extrêmement présents. On a des innovations.
Vous parlez de MTM et de Mo Ibrahim.
Voilà, par exemple. Hein, voilà. Et on a sur le point. Même le cabinet Nodiz, pour parler de Nodiz de ce point de vue-là,
que vous dirigez,
que je dirige, c'est clairement dans cette logique-là. Parce que si on reste sur les classes moyennes, le propos c'est de dire que au-delà des chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont sujets à caution, que c'est encore ça, ce qui est le plus important, c'est de regarder les réalités telles qu'elles sont et de tirer le meilleur parti de ces réalités-là. Donc et ça c'est quelque chose qui va se développer naturellement parce que vous prenez cette classe moyenne africaine, cette classe moyenne supérieure, elle est formée, elle est voilà, elle et la vocation à se prendre en charge. Alors naturellement, il y a toujours le préjugé de ce que j'appelle la présomption d'incompétence ou de la marque à la pomme. Il y a un certain nombre de choses. D'ici que une société informatique africaine puisse concurrencer cette marque à la pomme en Afrique, etc., il y a du chemin à parcourir. Mais il y a des positionnements intelligents à avoir. Et là, clairement, dans un jeu stratégique, c'est extrêmement ouvert.
Alors Julien Damon, vous représentez ici en quelque sorte à ce micro les entreprises françaises qui visent la classe moyenne africaine, puisque vous êtes l'auteur d'un rapport commandé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur les classes moyennes émergentes. Il est question dans ce rapport de pays africains qui intéressent les industriels et les commerçants, lesquels ?
Je peux vous en citer beaucoup. Les premiers d'entre eux, puisqu'on parlait des centres commerciaux, c'est Auchan, Carrefour, Unibail, Rodemco, de gigantesques entreprises
qui s'intéressent à quel pays africain ?
Tous. Tous en fonction de la prise de risque qu'ils veulent bien estimer raisonnable pour s'y implanter. On parlait de ces malls et de ces centres commerciaux. Nombre d'entre eux sont gérés ou mis en œuvre par ces grandes entreprises françaises. Vous êtes une autre grande entreprise française qui a une stratégie totalement centrée maintenant sur les classes moyennes émergentes, dont celle qui se trouve en Afrique, naturellement, c'est L'Oréal. L'Oréal a 1 milliard de clients aujourd'hui dans
cosmétique.
Le monde. Oui. Son objectif, c'est d'avoir 1 milliard de clients en plus. Et ils vont aller les chercher un peu partout. Si je peux dire un tout petit mot sur la France aussi là-dessus, par rapport à une des dimensions de la classe moyenne qui me semble absolument fondamentale et qui a été évoquée par une de nos interlocutrices, c'est la question de la protection sociale. Si la France est bonne en quelque chose, même s'il y a des déficits, moi qu'on puisse dire, c'est en protection sociale. Ce à quoi aspirent, je crois, des gens qui accèdent à de l'emploi formel et salarié, c'est d'être protégés pour eux et pour leurs proches, en cotisant naturellement. Et ça, la France peut aussi leur apporter.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, un sujet, la classe moyenne africaine et deux invités, Abakar Mengue et Julien Damon. Alors même dans les pays qui viennent de traverser de graves crises, il y a une classe moyenne en Afrique, c'est le cas au Mali. Amadou Moustapha Diop est le directeur associé de l'agence de communication DFA à Bamako. Notre correspondant David Baché l'a rencontré. Amadou Moustapha Diop.
On s'adresse à la classe moyenne malienne, donc c'est tout confondu, fonctionnaires, secteur privé, profession libérale. Il y a une véritable classe moyenne qui émerge aujourd'hui. Les cabinets d'avocats, les cabinets de notaires qu'on ne voyait pas il y a une vingtaine d'années, qui foisonnent tous les jours. Et bon, la classe moyenne malienne, il ne faut pas qu'on se cache, hein, c'est les commerçants. Parce que le Mali est un pays de commerce. Tout ce qui vend des produits qui viennent de la Chine, de partout, sont ceux qui ont de l'argent.
À partir de quel niveau de revenu, selon vous, est-ce qu'on peut parler de classe moyenne pour un pays comme le Mali ?
Question assez difficile. À mon avis, c'est autour de 500 000 francs CFA nets par mois, qui peut ne pas être exorbitant en Occident, mais si on regarde le niveau de vie malien, déjà à 500 000, on peut considérer que la personne est à l'aise.
Ça fait environ 750 euros par mois.
750 euros par mois. Telle personne peut se loger décemment, tu le retrouveras avec sa petite voiture, avec des enfants qui vont à l'école. À la limite, tout ce qui concerne le basique dans la vie, c'est quelqu'un qui arrive à subvenir à ses besoins.
Et ça, selon vous, ça représente une part importante de la population au Mali ou une part grandissante ?
Une part grandissante, je dirais, mais pas importante, parce que si on regarde aujourd'hui dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Donc, je me dis, cette classe moyenne est en train de se constituer.
Alors, cette classe moyenne malienne en cours de constitution, qu'est-ce qu'elle consomme ? Quels sont les produits qu'Amadou Moustapha Diop est appelé à promouvoir ? Écoutez sa réponse.
C'est beaucoup plus les produits alimentaires, les pâtes. Il y a maintenant de plus en plus les nouvelles technologies, notamment avec l'informatisation, l'Internet qui se développe. Il y a des besoins qui sont créés de facto pour cette classe-là, qui, à travers leurs enfants, eux-mêmes, chacun voudrait avoir un outil informatique à la maison, des jeux vidéo pour les enfants.
Ça veut dire que la classe moyenne au Mali, elle occidentalise plus ou moins sa consommation, que ce soit en termes alimentaires ou en termes de nouvelles technologies ?
Aujourd'hui, être moderne, être civilisé, c'est consommer européen, c'est être comme l'Européen. Donc ce n'est pas une classe moyenne qui vit en fonction de nos réalités, mais qui vit en regardant l'Occident. Parce que l'informatique, tout ça, c'est pas les besoins de base du Malien de base, mais si tu évolues, tu es considéré comme classe moyenne. Quand tes enfants vont dans un certain type d'école, quand tu roules dans ta voiture, tu peux te payer des vacances qui ne sont pas forcément des habitudes africaines. Vous voyez un peu, donc la classe moyenne africaine est très occidentalisée.
Quand vous devez faire une publicité qui s'adresse à cette classe moyenne malienne, comment est-ce que vous vous adressez à elle? Quels sont les codes que vous employez?
Bon, le code, c'est le modernisme. Hein. Je ne dirais pas à une classe moyenne de consommer des pâtes alimentaires en mettant des gens par terre en train de manger dans une tasse commune.
Ce qui est pourtant la méthode malienne traditionnelle.
Qui est la méthode malienne. Mais je m'adresserais plutôt à cette classe en les mettant à table avec fourchette, cuillère, tasse. C'est pourquoi je vous dis que c'est singer sur le mode occidental.
Singer sur le monde occidental, Ababacar Mbengue, la classe moyenne africaine?
Oui, oui, beaucoup, mais il faut nuancer, parce que si on prend les produits électroniques et autres, on a parlé de la marque La Pomme.
Apple, on peut la nommer.
Apple, mais on peut parler de Samsung, on peut parler de, voilà, on peut aller. Et les produits chinois sont extrêmement présents en Afrique, et ça va aller crescendo. Et donc, donc il y a, par contre, effectivement, une forme d'extraversion, une forme d'ouverture vers l'extérieur. Vous savez, dans certaines cultures, il y a le syndrome du not invented here, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé là, ici, et qui n'est pas considéré comme bien acceptable. En Afrique, c'est souvent le contraire. C'est ce qui est de l'extérieur qui est valorisé. Alors, ça a été occidental pendant très longtemps. C'est chinois, ça peut être brésilien, ça peut être indien et autres, etc. Alors, tout cela, ça ramène à la considération. La réponse, c'est pas de fermer les frontières ou de jeter des anathèmes. C'est de dire, il y a un environnement qui est ouvert. Il y a des positionnements stratégiques à avoir, y compris pour des énonciations africaines, pour des perspectives africaines. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que des producteurs parce qu'on passe de la consommation à la production. Il y a des entrepreneurs qui peuvent, que dans le formel ou dans le secteur informel, qui peuvent prendre position, développer des stratégies intelligentes, faire recours à du patriotisme économique ou pas, etc., et avoir des positionnements qui leur permettront de se développer et d'avoir des offres intelligentes. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur la marque à la pomme, sur les Chinois, sur etc. Il s'agit de se dire, il y a un environnement qui est prospère, qui a du potentiel, qui représente du potentiel pour tout le monde. Donc, de manière claire, on voit bien que en faisant du stretching ou pas, les gens dépensent. Donc, il y a de la consommation. Et il faut juste voir le pendant. C'est-à-dire qu'il y a de la consommation, ça veut dire qu'il y a de la possibilité d'investir. Et donc certains, les Africains consomment, les Africains peuvent investir également. Voyez cette affaire-là. Et de ce point de vue, ça rejoint la question, est-ce qu'on est en train de subventionner des marques étrangères ou pas, etc. À la limite, c'est une question qui ne me préoccupe pas. Celle qui me préoccupe davantage, c'est de dire, dans cet environnement-là, qui est un environnement, effectivement, où ça bourgeonne, c'est le terme qui a été dit, et ce sera inéluctable et ça va aller crescendo, dans cet environnement-là, quel positionnement intelligent avoir pour les marques africaines. Pour les marques africaines, exactement.
Julien Damon, est-ce qu'on est dans un cercle vertueux? Est-ce que l'émergence de cette classe moyenne africaine est source de plus de développement économique encore?
La meilleure réponse qu'on puisse faire est il faut le souhaiter. Parce qu'on parle, les classes moyennes, de toutes les vertus, d'aspiration à la démocratie, d'aspiration à une consommation à la fois heureuse pour les ménages et raisonnable pour l'environnement. Donc je ne peux répondre qu'il faut le souhaiter. Ce qui est extrêmement souhaitable. Chaque individu, chaque ménage, chaque quartier, d'ailleurs dans les villes, sachant que c'est un phénomène essentiellement urbain, c'est que ceci continue à progresser sur les rythmes qui sont rapides. Alors bourgeonnant, je pense que c'est en effet le meilleur des termes. Mais ça n'est pas non plus, à mon avis, totalement inéluctable. À la fois le choc démographique qui fait que la population africaine va doubler en 40 ou 50 ans, et les instabilités politiques.
Est-ce qu'on en est bien sûr? Parce que l'une des manifestations de cette classe moyenne, visiblement, c'est qu'elle a moins d'enfants.
Bien sûr. Ah oui, non, mais ce qui fait comme hypothèse sur le doublement de la population africaine est fait sur une hypothèse moyenne avec une diminution du nombre d'enfants moyen par femme. C'est vrai que ça transforme tout, la moyennisation qui passe par la salarisation, l'accès au salariat et par davantage de protection sociale. Ça change les modes de vie, ça change la mode de constitution et de vie quotidienne de la famille.
Ababacar Mbengue, ça change la constitution de la famille, cette classe moyenne ?
Oui, ça la change fondamentalement. Je voudrais dire un mot sur les chiffres concernant la population. Aujourd'hui, l'Afrique, globalement, nord et sud, c'est un humain sur sept. En 2050, ce sera un sur quatre. Et en 2100, un sur trois. Donc voilà, en tenant compte de tous les paramètres dont vous parlez, donc les modifications de fécondité, etc. Mais ce sont des tendances lourdes. Et donc ça veut dire des populations très jeunes, naturellement, le pouvoir d'achat va augmenter, c'est-à-dire les scénarios qu'on fait, c'est dans cette logique-là. Et donc par rapport à ça, la question c'était de dire est-ce que ça va être un moteur de développement pour tout le monde, est-ce que la croissance va être inclusive et autres, et tout ça. Le positionnement, c'est de se mettre dans cet esprit-là et d'essayer de faire en sorte que non seulement ce soit souhaitable, c'est souhaitable bien entendu, mais que ça se fasse. Et donc, et du point de vue moi, ma formation, c'est le management stratégique, c'est de dire il y a des possibilités partout et on se bat pour faire en sorte que ça se passe. Et il y a des possibilités, de l'intelligence dont je parlais. Donc encore une fois, c'est une chance. On sait que c'est un vecteur de croissance, c'est un îlot de prospérité à venir et ça, et que les gens vont affluer. Donc il faut que les gens viennent avec leur créativité, avec leurs innovations, mais il faut que les Africains mettent la main à la pâte aussi. C'est-à-dire que c'est l'idée de non pas du toi le ciel t'aidera. En Wolof, ils vont dire nimble ne qui fait que l'oreille borom, ce qui veut dire il faut y mettre la main à la pâte de toute façon quoi. Et donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les bonnes initiatives. Il y aura de la concurrence, mais ce sera de la bonne concurrence. Et il appartient aux Africains de regarder ce qui se fait et de voir les interstices, de se glisser dans les interstices pour faire en sorte qu'il y ait une spirale ascendante.
Alors, des gens qui achètent des produits de consommation européens, qui ont un certain niveau de vie, on l'a entendu tout au long de l'émission, est-ce que ça n'est pas source ou manifestation d'inégalité ? Julien Damon.
Alors, ouais, tout est, comme d'habitude, dans la mesure des inégalités. Les pays africains se distinguent par des niveaux colossaux d'inégalités, avec une concentration de la richesse sur une toute petite partie de la population et une population pauvre extrêmement large. Vous avez non pas une extension des inégalités, mais une transformation des inégalités avec l'affirmation des classes moyennes. D'un point de vue occidental, assez égalitariste, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez souhaitable. D'un point de vue économique, c'est d'ailleurs aussi quelque chose d'assez souhaitable, parce que vous avez davantage consommateur. Pour être consommateur, il faut être dans cette mesure auparavant producteur. Et le sujet, c'est qu'en effet, il y ait davantage d'investisseurs pour que ce qui n'est pas à considérer comme une manne tombant du ciel soit un défi relevé. Car au regard du défi démographique, le sujet est que on arrive à stabiliser ces classes moyennes et à les étendre.
Abakambenge, inégalité.
Ah, mais c'est certainement inégalité. Et la question est d'autant plus importante qu'on a parlé de la grande responsabilité de la classe moyenne. La classe moyenne est un stabilisateur social formidable. Et dans les pays africains dans lesquels on est, avec cette pression démographique dont on parle, si on ne fait pas attention à préserver cette paix sociale-là, en consolidant une classe moyenne forte, on va à la catastrophe. On est assis sur des bombes. Ça veut dire que les dirigeants ont une responsabilité, mais au-delà des dirigeants, les acteurs, j'allais dire, conscients ou lucides, ont une responsabilité forte pour faire en sorte que ce désir de vivre ensemble soit quelque chose qui se consolide et on sait toutes les difficultés qu'il y a. Et la consolidation de ce désir de vivre ensemble, de bien vivre ensemble, ça passe par le renforcement d'une classe moyenne, avec, au-delà même de la classe moyenne, l'existence d'un ascenseur social qui puisse permettre, qui donne la perspective aux gens, non seulement d'entrer dans la classe moyenne, d'y rester, de ne pas redescendre, mais même d'aller vers les classes aisées, etc. Donc d'avoir cette forme d'ascenseur social, c'est quelque chose qui est extrêmement important.
L'ascenseur social, Julien Damon, on l'a aperçu aux États-Unis, en Chine, ah oui. Au Brésil.
Totalement. L'affirmation historique des classes moyennes, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays émergents, émergés, c'est d'abord la sortie de la pauvreté, la consolidation de situations moyennes. Aujourd'hui, le problème des pays riches, c'est que précisément l'ascenseur social ne fonctionnerait plus. On parle parfois même de descenseur social. Dans le cas africain, nous sommes dans une période où l'ascenseur social emmène de plus en plus de gens. Il faut souhaiter que cet ascenseur soit de plus en plus puissant. Si je peux terminer sur une formule, un petit clin d'œil, vous avez plein d'entreprises occidentales du type Otis qui produisent des ascenseurs et il faut continuer à organiser les villes, organiser les bâtiments, que ce soit avec de la production occidentale ou de la production et l'innovation africaine.
Alors, on a parlé des villes. Les classes moyennes sont dans les villes, mais pas à la campagne. À Abakambenge, pas dans les campagnes.
Absolument, c'est tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il faut une approche globale, cohérente. Il faut regarder l'Afrique dans ces réalités de manière très fine. Et de ce point de vue-là, il faut aller au-delà des chiffres, des modes, etc., et être au plus près. Il faut prendre l'expertise africaine. L'expertise africaine qui regarde les choses telles qu'elles se font. Il faut regarder les comportements. Il faut regarder où sont les enjeux. Et en particulier, prenez l'exemple du monde rural. Il y a souvent des défis énormes en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Il y a des gisements d'initiatives extrêmement importants pour ce qui concerne, par exemple, l'emploi dans le monde rural concernant les jeunes. Et donc là, une vision stratégique de cette situation-là consisterait à dire, mais parce que souvent dans beaucoup de pays, vous allez avoir 80% de la population, même si l'urbanisation augmente, qui est rural. Et ce sont des gens qui quittent cet endroit pour venir un exode rural phénoménal. Et donc, dans cette perspective stratégique-là, l'idée de dire développer l'agriculture, développer le mode de vie et donner du pouvoir d'achat à cette population-là est quelque chose qui peut être extrêmement crucial. Mais on voit l'importance de la formation, l'importance de l'innovation pour faciliter cette transition-là.
Un message d'espoir?
Un message d'espoir, moi c'est vraiment un message d'espoir, c'est-à-dire que la démographie, la jeune démographie, c'est un potentiel phénoménal. Et par de la formation, par le recentrage sur l'innovation, ça ouvre des perspectives phénoménales.
C'est le mot de la fin, Babacar Mbengue. Cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré aux classes moyennes africaines est terminé. À la réalisation, il y avait Mathias Taylor. Merci à vous, à Babacar Mbengue et Julien Damon d'y avoir participé. Vous pouvez nous réécouter ou nous podcaster sur le site internet rfi.fr. À samedi prochain.